11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Rémi Jacob.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Au sommaire de votre journal des médias.
Les Français changent trop souvent de téléviseur, hein, c'est ce qui ressort d'une grande étude publiée hier également. Un gagnant de Top Chef qui va participer à une version mondiale du programme avec tout de même 250 000 dollars à la clé. Hein, vous l'entendrez à notre micro dans un instant. Et enfin, une déprogrammation jeudi soir sur France 2. On vous dira laquelle.
Mais d'abord, on va commencer par les audiences comme chaque matin. Qu'ont regardé les Français hier soir le top 3.
Eh bien, à part Toutatis, hein, c'est TF1 avec Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, hein, qui est sur la première marche du podium, près de 5 millions de téléspectateurs, soit 24,6% du public pour le film d'Alain Chabat. Derrière, on retrouve France 2 avec la série Piste Noire, hein, 3,7 millions de téléspectateurs, soit 17,2% de part d'audience. Enfin, M6 clôture ce podium avec le lancement de la 18e saison de L'Amour est dans le Pré, 3,4 millions de téléspectateurs et 15,1% de part d'audience, un score très solide, hein, qui est stable par rapport à l'année dernière.
Europe 1, le journal des médias.
On démarre ce journal avec la publication hier du baromètre du numérique.
Une étude de référence qui est publiée chaque année par l'ARCOM, ex-CSA et l'ARCEP, le régulateur des télécoms. C'est toujours un moment très attendu, hein, car ça permet de mesurer les usages numériques des Français. Et cette année, on découvre une statistique édifiante. Hein. Plus de la moitié des personnes interrogées déclarent avoir changé leur téléviseur alors qu'il était encore, tenez-vous bien, en état de fonctionnement. Hein. Le plus souvent, c'est pour s'acheter à la place un téléviseur dernier cri. C'est évidemment problématique en termes d'impact environnemental, comme le souligne cette étude qui appelle, je cite, à accroître la durée de vie des téléviseurs.
Et ce baromètre s'intéresse également aux usages des Français sur les réseaux sociaux.
Avec notamment cette question, les dispositifs de signalement sont-ils assez efficaces, hein? Vous savez, c'est ce qui permet sur les réseaux sociaux ou sur des sites comme YouTube de signaler des contenus que l'on juge par exemple illégaux. Eh bien, c'est plutôt encourageant, hein, comme l'a expliqué hier le conseiller de l'ARCOM, Benoît Loutrel. C'était lors de la présentation à la presse de ce baromètre.
42% des internautes ont déjà eu recours à un dispositif de signalement pour dire, voilà, mais tel compte, ça colle pas, ou tel contenu est illégal et inapproprié, respecte pas les conditions générales d'utilisation. Ce 42%, ça prouve quand même que ces mécanismes sont assez connus et ils ont été trouvés très clairement, facilement accessibles, 87%, simple d'utilisation, 85%, et aisément compréhensible, 80%. Intéressant, là aussi, je suis pas sûr qu'on aurait mis spontanément, si on s'était interrogé avant, des chiffres aussi élevés.
Benoît Loutrel, conseiller de l'ARCOM. On change d'univers avec un ancien vainqueur de Top Chef qui va participer à la version mondiale du programme.
Un programme qui sera diffusé aux États-Unis, hein, ça sera sur la chaîne Bravo. Le concours culinaire accueillera pour l'occasion des gagnants du monde entier, notamment un petit Français, hein, il s'appelle Samuel Albert. Alors ceux qui suivent le programme sur M6 s'en souviennent, hein, puisqu'il a gagné la saison 10 de Top Chef, c'était en 2019. Alors à quoi va ressembler cette émission internationale? J'ai demandé au principal intéressé de nous détailler le menu.
Top Chef Monde ou Top Chef World All Star est simplement la version américaine de Top Chef France. La licence internationale a décidé pour la 20e saison américaine de faire concourir les chefs de différents pays qui possèdent la licence Top Chef. La différence avec la version française, je dirais qu'il n'y a pas de coach, mais des juges. Les juges sont très différents. Et ce que je peux vous dire, c'est que le palais américain, il est aussi vraiment différent de celui des Français. Et que le vrai et l'unique Top Chef monde, c'est le Top Chef France.
Samuel Albert au micro d'Europe 1 Culture Média avec une petite pointe de chauvinisme. Et à noter que le programme a déjà été tourné, hein, c'était à Londres. Il sera diffusé en mars et le gagnant empochera tout de même la coquette somme de 250 000 dollars.
C'est déjà tourné, il ne vous a pas dit s'il a gagné ou s'il a perdu.
Je lui ai évidemment posé la question, mais il n'a pas le droit de me raconter le tournage.
Voilà, mais il vient juste de s'acheter une Ferrari. Je plaisante. On a appris hier la disparition d'une actrice américaine qui a marqué l'histoire du petit écran.
Une comédienne que les téléspectateurs avaient découvert toute jeune. Elle n'avait que 6 ans lorsqu'elle avait intégré dans les années 60 le casting de cette série mythique. Famille Adams, hein, vous l'avez reconnu, la comédienne Lisa Loring qui jouait le rôle de la petite Mercredi s'est éteinte à l'âge de 64 ans des suites d'une crise cardiaque, hein, c'est ce qu'a annoncé Laurie Jacobson. Hein, c'est une productrice qui était très proche de la comédienne, elle souligne qu'elle restera, je cite, « ancrée dans la fresque de la culture pop et dans nos cœurs pour toujours » comme Mercredi Adams.
Autre disparition, c'est en France cette fois, on a vu le tweet très ému du comédien Omar Sy, celle du comédien Adama Nyan.
Il avait seulement 56 ans après des débuts au théâtre. Il avait décroché des petits rôles dans des séries télé comme Commissaire Moulin ou Julie Lescaut. Il avait également interprété un personnage récurrent dans Plus belle la vie, mais c'est au cinéma que sa carrière avait explosé en 2015 lorsqu'il avait incarné le tueur en série Guy Georges. C'était dans l'affaire SK1 ces dernières années. Il avait fait son retour sur le petit écran, notamment dans la série Lupin sur Netflix ou encore dans Alex Hugo sur France 3.
On part sur France 2 avec une déprogrammation qui a été annoncée hier.
Oui, ça concerne la journée de jeudi à 20h40. Les téléspectateurs n'entendront pas ça. Pas de feuilleton, un si grand soleil ce soir-là. Hein. C'est ce qu'a annoncé hier la chaîne dans un communiqué à la place. L'émission politique, l'événement, hein, c'est son nom, présenté par Caroline Roux. Un programme qui débutera exceptionnellement plus tôt, à 20h40 au lieu de 21h10. Et cela en raison de la venue de la première ministre Elisabeth Borne.
Et puis on reste sur France 2 avec une anecdote qui concerne Anne-Sophie Lapix.
Oui, c'est la présentatrice du journal de 20h qui la dévoile elle-même cette anecdote. C'est dans une interview accordée au magazine Télé Loisirs, la journaliste qui confie avoir un faux compte sur Twitter. Et oui, un compte caché, c'est un moyen pour elle de surveiller ce qui se dit sur le réseau social, car elle a fermé son vrai compte en 2020 à la suite de messages haineux. « Je n'aime pas les réseaux sociaux », explique-t-elle, mais cela reste parfois une source d'information. Au cours de cette interview, elle évoque également les critiques dont elle fait parfois l'objet. Les commentaires sur mes interviews, ma famille, ma façon d'être ou mon physique glissent au bout d'un moment, affirme-t-elle. En revanche, les mensonges à propos de notre JT me mettent hors de moi. Fin de citation.
Merci beaucoup Rémi Jacob et à demain pour un nouveau journal des médias.
À demain.
Dans un instant, notre info média du jour. Quel est le point commun entre un TikToker et sa grand-mère? Et une bonne idée de médias vidéo digital se trouve-t-elle sous le sabot d'un cheval? On en parle avec Stéphane Simon. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
C'est la fable du média vidéo des champs contre celui des villes. En 2 ans et demi et presque 4000 vidéos, Néo Média 100% vidéo et digital est en train de se tailler une place de choix parmi les Loopsiders, Combini et autres bruts de ses concurrents français. Avec une idée simple, un bon sujet, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval, c'est le sabot du cheval, ou plutôt le maréchal ferrant qui s'en occupe, l'éleveur passionné par son travail, ou alors le cheval lui-même qui laboure les vignes. Il y a 10 ans, quand Jean-Pierre Pernaud faisait local, on le disait populiste, voire réac. Mais l'heure a changé, l'époque a changé, et si à l'heure des algorithmes et des plateformes mondialisées, le terroir était devenu le sommet du cool. Je poserai cette question à Stéphane Simon, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous êtes le cofondateur de Néo, vous avez été producteur d'émissions cultes, Paris Dernière, Rive Droite, Rive Gauche, 93 Faubourg, avec Ardisson, Salut les Terriens, entre autres. Mm-hmm. J'en viens à Néo, le concept c'est lequel? C'est prendre l'esprit du JT de Pernaud que je citais et l'adapter à l'évolution de la consommation des médias et des mentalités.
Populaire, positif, enraciné, dans un monde très, très angoissant et devenu lointain pour beaucoup de gens. Rappeler ce qu'est la France, faire découvrir la France aux jeunes générations qui sont plutôt bercées par un univers mental de séries américaines ou d'influenceurs plus souvent à Dubaï qu'à Clermont-Ferrand. Ben nous, on trouve très exotique de faire redécouvrir la France.
Voilà, mais ce qui est vraiment intéressant dans votre cas et votre parcours, c'est que vous avez travaillé très longtemps avec quelqu'un qui pourrait être une sorte d'anti-Pernaud, qui était Ardisson.
Ouais, ouais.
C'est vous qui avez changé d'avis? C'est vous qui avez changé de vision ou c'est la France qui a changé?
C'est le monde qui a changé. Je pense qu'on ne vit pas post-confinement exactement comme on vivait pré-confinement. Quand Brut faisait le pari de la globalisation d'un monde où on regarderait les mêmes vidéos que l'on habite à Shanghai, à New York ou à Paris, eh bien, c'était avant la crise sanitaire. Et il se trouve qu'un certain nombre de vérités d'évidence ont été rappelées et que les peuples ont repris un goût spécifique. Voilà, et qu'ils ont envie d'être rassurés aujourd'hui sur qui ils sont.
Puisque vous les citez, vous citez Brut, mais je vais également parler de Combini, c'est l'espace qu'ils vous ont laissé. Si je voulais synthétiser et résumer à grands traits, à eux les jeunes urbains, le journalisme militant, les documents chocs avec tabassage de flics, et à vous le terroir, la pêche à la truite et les producteurs d'escargots.
Oui, bah ça, on pourrait le dire comme ça. Vous avez le sens de la formule ce matin, Philippe, bravo. Non, c'est vrai que pendant longtemps, l'univers digitalisé était celui des jeunes urbains créatifs. Et puis, il se trouve qu'aujourd'hui, 95% des Français regardent quelque chose du digital, que ce soit Facebook, que ce soit TikTok pour les plus jeunes, etc. Il y a une place pour tout le monde. Et il se trouve qu'il y avait une France qui n'était pas trop représentée encore dans cet univers-là. C'était un univers médiatique. Il y avait une espèce d'océan bleu où on pouvait aller jeter des filets et voir si on y ferait bonne pêche. C'est celui-ci. Et il se trouve que ça correspondait en plus à une volonté profonde des fondateurs qui avaient envie de reparler un peu de la France et des Français.
Des fondateurs, vous n'êtes pas seul.
Non, on était 5 au démarrage. On est 4 aujourd'hui. Il y a Anne-Henri de Gestas, il y a Louis Perrin et il y a Samy Biasoni. Voilà.
Oui. Et Bernard de la Villardière aussi.
Et voilà, Bernard de la Villardière était là au début de l'aventure et nous nous sommes séparés il y a quelques semaines à la faveur de l'été. Oh, bah, comme souvent, quand, si vous voulez, c'est extrêmement banal, mais quand vous avez une aventure qui commence à 5, bah, bien souvent, il y a des majorités qui se constituent, puis des divergences de vues qui apparaissent. Et puis, il vaut mieux se séparer quand tout va bien, quand il y a du succès. Comme ça, on n'oublie personne et c'est ce qui s'est passé, tout simplement.
Ouais, pour être totalement concret, Bernard Lavillardière, si je suis bien informé, a créé un média concurrent qui s'appelle Réel.
Alors, média concurrent, vous êtes bien informé parce que pour l'instant, il n'a pas encore vu le jour, mais en tout cas, je pense que vous allez l'inviter un jour pour qu'il vous en parle et vous aurez bien raison.
Alors, contrairement à la télévision, Néo vous a rendu milliardaire, enfin milliardaire en nombre de vues.
Oui.
Un milliard de vues depuis janvier, on ne se rend pas compte parce qu'on donne tout le temps des chiffres ronflants. C'est beaucoup, c'est peu.
Ah non, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est-à-dire qu'on a de la chance et peut-être qu'on a profité aussi de l'expérience de nos entre guillemets concurrents, puisqu'on ne fait pas tout à fait le même, on n'a pas le même territoire éditorial.
Vous ne couvrez pas les grèves aujourd'hui, par exemple?
Non. Non, non. En revanche, on pourrait trouver un sujet rigolo à traiter aujourd'hui, mais ce serait pas, en tout cas, c'est pas de l'actu chaude. On est sur de l'actualité plus magazine. On va s'intéresser au patrimoine, à des portraits de Français. Voilà, c'est de l'actualité en plus positive. Et vous savez, petite anecdote, quand on a démarré, il y a un de nos partenaires qui nous a dit votre initiative, votre média là, positif, ça marchera pas.
Ouais.
C'est gentil comme intention, mais ça marchera pas. Sur le digital, il y a que le clash et le buzz qui marchent.
Bien
et
sûr,
ben non.
Bad news is good news.
Mais voilà.
En même temps, c'est peut-être parce que vous êtes les seuls et que le créneau des bad news est encombré par beaucoup, beaucoup d'acteurs.
Oui, peut-être, mais c'est aussi parce que le climat change. Je trouve que quand on a un climat un peu anxiogène, comme franchement, en ce moment, on est servi. Hein. Vous parlez des grèves, mais on peut parler de la guerre en Ukraine, etc. Tout ça fait qu'on a peut-être envie de regarder des choses qui vont bien.
Il n'y a pas que la grève dans la vie, il y a aussi les retraites. Et là, on peut dire que Néo, ce n'est pas un tract pour la retraite à 60 ans. Exemple, Marie-Lou, elle tient un bistrot, elle a ouvert un bar à Iceberg dans le Nord, tous les jours, grève ou pas. Et alors, elle a vraiment fait ses annuités puisqu'elle a 103 ans. Et comme tout bon commerçant, eh bien Marie-Lou trouve que les affaires vont mal.
Ben, moi, j'ai des clients, ils viennent régulièrement. Oui. Mais j'ai plus beaucoup de clients, je les enterre tous. C'est vrai, hein? Bah, combien qu'un homme qui s'en va à 70 ans?
Mamie, je connais madame depuis l'âge de 12 ans. Et je n'ai 75.
Mais j'aurais jamais pensé vivre jusqu'à ça. Je ne mange pas un fruit. Je ne bois pas de lait. Je ne mange que du vinaigre, de la moutarde, des cornichons. Tout ce qui n'est pas bon, soi-disant.
Un bolet de mayonnaise pour un souper.
103 ans.
Oui, et toutes ses dents encore.
Si elle a démarré à 25 ans, ça fait 78 annuités.
Mmh. C'est vrai. C'est une femme absolument incroyable. On a fait une très, très jolie... C'est bien que vous ayez trouvé ce portrait-là, mais on a fait une très jolie série sur les centenaires. Mmh. Vous savez qu'on est de plus en plus nombreux en France à être centenaires. Donc, curieusement, la télévision, parce que c'est
dites,
toujours pareil...
Dites pas, on est, vous n'êtes pas encore centenaire.
Non, je suis à la moitié du chemin.
Voilà.
Mais il se trouve quand même que c'est un phénomène, ça, sociologique, important. Et la télévision n'aime pas trop montrer les centenaires. Bah oui, forcément, c'est très ridé. Ça parle parfois lentement et avec des voix chevrotantes. C'est pas très télégénique. Mais il se trouve que ce sont des gens extrêmement attachants.
Bruno Donnet montrait ici dans une chronique combien il était difficile de voir des vieux à l'écran. Et je ne dis pas des seniors, dire des vieux comme s'ils avaient été occultés du paysage tout en défendant les vieux. Cette vidéo, combien de vues?
Oh, plusieurs millions, ça je ne connais pas de tête.
4,4 millions. Qui regarde Néo? Vous avez fait des études, études marketing?
Oui, et alors c'est très rassurant parce que ça ressemble à la France. C'est-à-dire qu'on est très légèrement surreprésenté à Paris, mais ça correspond aux usages digitaux. Mmh. Mais autrement, on est aussi bien regardé en Alsace, qu'en Corse, qu'en Bretagne. Et ça suit la courbe démographique. C'est-à-dire que c'est très équilibré. Il n'y a pas, si vous voulez, de grands déséquilibres comme les autres médias réseaux sociaux, par exemple, qui ciblent beaucoup les jeunes urbains, les décideurs. Là, c'est très équivalent. Et puis, c'est amusant dans les tranches d'âge aussi, puisque c'est regardé sur Facebook, mais aussi sur TikTok. Donc, vous avez du très jeune, du 15 ans, et puis vous avez du 85 ans.
Comment on fait pour rassembler les TikTokers et leur grand-mère?
Bah c'est toujours pareil. Il y a quelque chose de magique dans une réunion de famille aussi le dimanche. Vous avez des sujets qui traversent les âges et vous avez des sujets qui font plaisir aux petits garçons de faire découvrir à mamie ou mamie de faire découvrir aux petits garçons.
Là, ce qui est drôle, c'est que les bobos adorent maintenant ce qu'ils trouvaient réac il y a 10 ans.
Oui,
ça ne vous a pas échappé.
Je pense que les bobos changent.
Le bon coup de Néo, c'était de sortir juste après le confinement.
Oui.
Ça a joué ou pas?
Oh, certainement, certainement. C'était, on est parti avant le confinement et on n'imaginait pas le confinement puisqu'on a commencé à discuter avec Bernard, Samy et puis Anne-Henri et Louis de leur côté commençaient à réfléchir aussi à ça dans leur agence qui était Dentsu à l'époque. Et il se trouve que le confinement a accéléré cette nécessité de se réenraciner, de trouver un cadre de vie plus propice, des relations apaisées et a rendu possible aussi, le télétravail a rendu possible une vie en dehors de Paris. C'est quand même, il faut voir dans quel enfer on vit à Paris, à part la proximité avec Europe 1 qui rend les choses faciles pour venir vous voir, mais autrement, c'est pas une vie très enviable en vérité. Il y a beaucoup d'autres choses à faire dans des villages et des petites villes.
De mémoire, je crois qu'il y a 40 000 ou 70 000 personnes qui quittent Paris chaque année.
Chaque année,
c'est exactement. Ce qui est quand même un signe. Comment vous situez en termes d'audience par rapport à vos concurrents français? J'ai pas les chiffres, j'ai le ranking, comme on dit, pour employer un mot anglais. Alors, vous êtes second. Ouais. Très loin derrière Brut,
oui, Brut
mais devant l'Outsider majeur et devant Combini.
La plupart du temps, exactement. Nous, on est très représentés sur Facebook quand même. Donc parfois, on fait jeu quasi égal avec Brut, mais Brut est quasiment tout le temps devant. C'est normal, c'est le grand patron, si j'ose dire, puisque c'est le média qui a été lancé il y a 7 ou 8 ans déjà. Nous n'avons que 2 ans. Et il se trouve que, par ailleurs, on a grignoté très rapidement des parts de marché et on s'est retrouvé très rapidement à être le deuxième média réseau social.
Mais c'est gratuit si on veut vous regarder.
Ah, c'est totalement gratuit et on choisit, et c'est pas exactement les mêmes contenus, si on regarde sur Twitter, sur Facebook ou sur TikTok ou Snapchat ou etc. On n'a pas exactement les mêmes publications.
Justement, on parlait du modèle économique de Néo. On est avec Stéphane Simon dans Culture Média. À tout de suite.
9h-11h,
Europe 1 Culture Média.
En compagnie de Stéphane Simon, co-fondateur de Néo. Comment vous définiriez Néo pour qui prendrait l'émission en cours de route et qui n'a jamais vu Néo?
Des petites vidéos que vous retrouvez sur vos réseaux sociaux préférés, Facebook, TikTok, etc. Des vidéos courtes qui parlent de la France et des Français, du patrimoine. C'est populaire, positif, enraciné.
Ça existe depuis 2 ans, c'est même enraciné dans le succès, je l'ai dit. Vous êtes deuxième derrière Brut, mais devant vos concurrents principaux, je ne vais pas tous les citer. Le grand mystère de ces médias vidéo, c'est le modèle économique. Une vidéo qui fonctionne bien, est-ce que ça peut rapporter de l'argent? Est-ce que ça paye les salariés? Combien pour 1 million de vues sur Facebook, 1 million de vues sur TikTok?
Bon, c'est marginal dans le modèle économique. Et donc, je peux vous répondre très sincèrement. Hein, c'est quelques centaines. Mais ce n'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est d'avoir un modèle économique où vous avez d'une part, vous êtes rémunéré marginalement par le clic, par le vu. Mais d'autre part, vous faites des campagnes avec des marques. Par exemple, Le Bon Coin, on a fait une série sur les collectionneurs avec Le Bon Coin, qui sont des sujets qui sont intéressants en tant que tels, mais sur lesquels une marque va être intéressée de s'associer. Alors, ça peut se faire juste par Le Bon Coin propose, mais ça peut être aussi dans ces vidéos de collectionneurs, comment ça marche une collection, comment on trouve des pièces, etc. Et là, du coup, on voit apparaître Le Bon Coin. Et c'est ça, la magie de ces médias, réseaux sociaux.
Mais dans quelle mesure ça reste du journalisme?
Ah, c'est du journalisme.
Quelle
parce que nous,
il y a quelque chose qui est vraiment qui saute aux yeux, ouais. C'est les publics rédactionnels dans la presse papier.
Ah, mais ça
on voit
ça
tout de suite que c'est fabriqué, que c'est truqué.
Bien sûr.
Tous les restaurants sont délicieux. Ouais. Il n'y a jamais aucune critique. Et donc, du coup, quand on voit ces pages, on les saute.
Alors, ça je comprends parfaitement. Et ce modèle de brain content, c'est pas ça. Si vous voulez, un bon sujet, on le dit tout le temps, c'est un sujet dont on ne voit pas qu'il est associé à une marque. C'est simplement, c'est tellement infusé, si vous voulez, et l'intérêt est tel, par exemple, sur ce gendarme, je repense à ça parce que je vous parlais de cette série sur les collectionneurs, on parle d'un type qui collectionne l'univers du gendarme de Saint-Tropez, à travers des 4L, des 2 chevaux, des tenues de gendarme, etc., etc. Ce type est une curiosité en soi. On le regarde vivre et il se trouve qu'il a acheté des objets sur Le Bon Coin.
Ouais.
Et vous voyez, c'est beaucoup plus subtil. Ouais. C'est intéressant en soi.
Ouais. Mais s'il se fait arnaquer par Le Bon Coin, puisque je cite cette marque, puisque vous la citez, est-ce que c'est dans votre sujet?
Bah, a priori, et d'abord se faire arnaquer sur Le Bon Coin, c'est compliqué parce que ça a mis en relation des collectionneurs avec d'autres collectionneurs. Donc si vous êtes arnaqué, c'est par quelqu'un qui est sur le bon coin, mais c'est pas par le bon coin.
Ma question était, est-ce qu'il se passe ça? Est-ce que c'est dans le sujet?
Bon, ça pourrait l'être dans l'absolu, si en plus ça a été positivé. Raison de plus, si ça a été positivé.
Vous gagnez de l'argent, vous perdez de l'argent, vous êtes à l'équilibre?
On est à l'équilibre aujourd'hui, bon mois, mauvais mois, on est à peu près à l'équilibre. Il y a des mois où on dépasse, vous savez, c'est assez cyclique aussi. Vous avez des périodes où les marques commandent davantage, notamment à la fin de l'année, c'est en général des périodes de rush. Et puis alors, le contexte international n'est pas extrêmement simple, mais il se trouve que quand même on a atteint au bout de 2 ans l'équilibre.
Ce n'est pas un média politisé, on l'a compris, Néo. Est-ce que ça aussi, ça rassure les annonceurs?
Bien sûr, c'est absolument indispensable d'ailleurs, pour vous dire vrai. Je pense que quand on est annonceur, on n'a pas envie de se coller des valeurs politiques sur le dos. Sinon, ça veut dire, ou alors on soutient carrément, hein, je pourrais dire Terroir de France pourrait être intéressé par une marque très très enracinée politique, par exemple. Mais ce n'est pas ça. En général, les marques, elles ont envie d'un univers qui soit rassurant, un safe space, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire, vous ne prenez pas le risque de vous faire dénigrer par une communauté politique de droite, de gauche ou d'ailleurs. Vous préférez annoncer dans un univers qui est tout à fait rassurant.
Vous êtes combien chez Néo et combien de journalistes?
On est une trentaine avec une vingtaine de journalistes. Donc il y a aussi des métiers totalement nouveaux comme data scientist, c'est-à-dire on étudie et on dit, on explique aux marques, ben voilà vos performances, c'est ça. Vous avez chaque vidéo a été vue pendant X secondes et plutôt par des cibles X, Y et Z.
Les journalistes dans la carte de presse, c'est des journalistes entre guillemets
fait,
normaux.
Bien sûr. C'est un média d'information générale.
Et comment ils réagissent à faire du brand content? Est-ce que c'est autorisé? Que dit la charte? Je me rends compte que je pose la question sans connaître la réponse, qui est rarement mon cas ici.
Bah écoutez, à partir du moment où les sujets sont des sujets d'intérêt généraux, ça ne pose aucun problème. La plupart d'ailleurs des journalistes ont compris le modèle en adhérant même, en venant même solliciter du travail chez Néo. C'est pas un sujet chez nous. Il n'y a pas d'un côté ceux qui font du brand content et de l'autre côté ceux qui participent à la rédaction.
On va entendre un exemple de sujet. Il s'appelle Jean-Bernard, il a 75 ans. Il est agriculteur breton, il n'est pas à la retraite. On le croirait directement, on est dans l'actu sortie d'un album d'Astérix. Il laboure son champ avec ses bœufs. Il reçoit des jeunes urbains du monde entier en stage pour leur apprendre la vie à la ferme. Et il y en a deux qu'il aime encore davantage que ses stagiaires.
Les bœufs, je les appelle, c'est tous mes gros doux. C'est des gros doux. C'est mes enfants. Voilà. Et il y a le gros doux, le petit doux.
Là, mon lapin. Là.
Recule un peu. Allez, de malhat. Ben, on essaye de vivre en autarcie le plus possible. Oui. On a nos cides, on a nos patates, on a nos légumes. On n'a pas essayé d'avoir plus et puis de bouffer le voisin et puis de... Non, on a fait ce qu'on avait.
Ça ne peut que plaire aux bobos.
Et alors, vous êtes particulièrement taquin parce que c'est très, très enraciné ce que vous nous avez, vous avez choisi comme extrait. On a aussi des artistes contemporains qui sont
bien
là.
Sûr.
Je repense à la vidéo de David Bayot, qui est un type qui fait des œuvres d'art avec
oui,
des tout petits
points.
Oui,
mais des artistes contemporains, on en voit partout. Donc c'était ça qui était intéressant.
Oui,
ce qui est
vous
montré,
avez
c'est
raison.
La spécificité, avec comme souvent une antiphrase, ouais. La Pravda dit pas la vérité. Mmh. Vous-même, vous montrez des gens qui ont 75 ans et ça s'appelle Néo.
Mmh. Absolument. Non, mais en plus, c'est vraiment quelque chose dont on est fier, c'est-à-dire de tendre le micro et la caméra à des gens qui n'ont pas l'habitude de voir les médias.
Vous avez cité un mot, une expression US, data scientist. Racontez-nous comment ça fonctionne.
Bah, c'est très simple, c'est quelqu'un...
Des scientifiques de la data.
Oui, c'est quelqu'un qui est chargé. Parce que vous savez, l'univers digital, à la différence de la radio et de la télévision, c'est que ça laisse une trace.
Oui. Donc, on sait qui s'est connecté, à quel moment, est-ce qu'il l'a regardé et combien de fois de suite il l'a regardé ou pas.
Exactement.
Et à quel moment il a lâché l'affaire.
Alors vous savez, la télévision, on monnaie la publicité en disant vous avez approximativement eu, mais ce sont que des sondages et des approximations, tant de millions de téléspectateurs. Là, vous avez des outils beaucoup plus performants qui vous permettent de tracer véritablement les performances de votre vidéo et vous devez en rendre compte à votre annonceur. Et votre annonceur est très content de connaître son audience parce que ça, c'est essentiel pour lui.
Et vous avez le 30 secondes, le seconde par seconde. Est-ce que parfois vous allez voir les journalistes en disant regarde, à tel moment, bim, les gens ont décroché?
Mais bien sûr, on veut vous dire la vérité. On a commencé à travailler en essayant plusieurs types de modèles de vidéos. Est-ce qu'il fallait commencer par une question? Est-ce qu'il fallait commencer par quelqu'un qui vous regarde dans les yeux et qui vous parle? Est-ce qu'il fallait commencer par une belle image un peu spectaculaire, comme à la télévision? Eh bien, pas du tout. Il y a des écritures spécifiques digitales Et en vérité, on a vraiment, on est data informed, comme on dit en bon français encore. Mmh. Eh bien, ça veut dire qu'on travaille avec ces données-là et on adapte nos vidéos.
On vous a connu comme producteur d'émissions emblématiques de Thierry Ardisson. Pourquoi vous ne faites plus de télévision ? C'est un choix ? Parce que vous pensez que l'époque a changé ou la télévision ne vous appelle plus ou les deux à la fois ?
Bah, y a un peu de tout ça. Il se trouve que d'abord, je continue à en faire un peu. Je fais le zapping de Paris Première. Je fais une émission avec Dominique Rizet. Je fais aussi les pigeons. Enfin bon, bref, je fais encore quelques formats. J'en fais moins. D'abord, parce que dans mon métier, j'ai toujours considéré que ce qui me motivait le matin, c'est d'avoir envie. Quand vous avez des gens qui, en face de vous, trouvent à chaque fois que vous allez leur proposer un projet plus d'inconvénients que d'avantages, vous vous lassez à force et vous dites je suis pas si aimé que ça, ils ont pas tellement envie qu'on travaille ensemble.
Ça sent le gars qui a fait des réunions avec les patrons de chaîne.
Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est plus simple de lancer un média seul avec le digital plutôt que d'aller convaincre un directeur des magazines ou des programmes de France Télévisions ou d'ailleurs. Moi je préfère, je vous dis la vérité, je préfère prendre du plaisir dans mon travail.
Vous avez effectué récemment une levée de fonds de 2 millions d'euros. Mmh. Pour quel objectif ?
Eh bien parce que, puisque ça marche bien, on a décidé de lancer une petite sœur à Néo. Alors il ne s'agit pas là de parler des femmes des territoires, pas du tout, mais de lancer un média féminin qui sera sur une autre ligne éditoriale que Néo, mais qui aura comme modèle d'être un média 100% vidéo réseau social.
Féminin et féministe ?
Féminin et féministe absolument, mais féministe au sens d'Elisabeth Badinter, pas de Sandrine Rousseau ou d'Alice Coffin.
Ça démarre quand ?
Ça démarrera au printemps.
Vous reviendrez nous en parler. On n'a pas parlé non plus de vos activités dans la presse, avec notamment le trimestriel dirigé autour d'Onfray Front Populaire
ouais, qui marche très bien.
Merci d'avoir été avec nous, Stéphane Simon. Je rappelle, Néo, c'est à voir partout sur toutes les plateformes.
Absolument.
Il y a une appli dédiée ou pas ?
Il n'y a pas d'appli dédiée, mais il y a un site qui s'appelle Néo.tv où on peut voir toutes les vidéos du catalogue.
Merci beaucoup. Dans un instant, on se retrouve avec un duo culte des années 90-2000. Souvent, l'expression est galvaudée, mais là, c'est culte. Charlie et Lulu, Hit Machine. Ces cultes, ils reviennent ce soir sur W9. Et puis on va retrouver également Bruno Donnet pour ses télescopages.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Dans un instant, nous recevons le duo culte des années 90-2000, Charlie et Lulu. Ils reviennent ce soir sur W9 pour Hit Machine Génération. Mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno.
Bonjour Philippe.
Je le dis comme ça, avec cette énergie, comme si j'étais dans Hit Machine. Tous les jours, Bruno, vous observez ici les comportements médiatiques. Et ce matin, en pleine journée de grève générale, vous vouliez faire l'éloge du service minimum et de la contestation.
Oui, vous le savez, Philippe, aujourd'hui, ça va barder dans la rue. Des centaines de milliers de personnes, peut-être plus d'un million, vont battre le pavé pour dire non, non à la réforme des retraites et ils vont le faire très bruyamment. Toutefois, il existe aussi une autre forme de contestation, une contestation silencieuse. Et c'est très précisément de cette forme de revendication-là que je suis venu vous dire un mot ce matin. Car la grève qui m'intéresse personnellement est une grève numérique. C'est Magali Cartigny qui raconte cette histoire passionnante dans un papier épatant que vous pourrez retrouver à la rubrique écran total du journal Le Monde. L'histoire, c'est celle d'un certain Thomas Dorazio. Il est américain, il vit en Pennsylvanie, il a 51 ans, une femme, deux grandes filles. Seulement voilà, Thomas vient tout juste de quitter sa famille. Comment ? Eh bien de manière numérique. Eh oui, Thomas Dorazio a quitté le groupe famille auquel il appartenait sur WhatsApp. Il a pris son téléphone, rédigé un petit message à l'adresse de son groupe familial, dans lequel il a écrit, je le cite, « Je n'en peux plus de lire tout ça, je ne supporte plus de devoir toujours rire ou aimer ou ajouter des cœurs à chaque petite pensée, photo ou blague envoyée ici. » Très ému par le procédé, sa fille aînée a alors capturé son texte, elle l'a posté sur les réseaux sociaux et le coup de gueule paternel a entraîné un buzz télématique mondial. 16 millions de personnes ont consulté la page et des centaines de milliers d'entre elles, bien conscientes de leur propre aliénation numérique, ont exprimé leur soutien au geste de bravoure de Thomas, devenu héros moderne, bien malgré lui, du droit à la déconnexion. Alors si Thomas Dorazio ne supporte plus de recevoir toute la journée des notifications provenant de son application WhatsApp.
Vous avez un nouveau message WhatsApp.
Il n'est pas le seul. Nous sommes légion à en avoir ras-le-pompon de nous faire siffler toute la journée. Pour un oui, pour un non, pour un problème de minuterie sur le groupe voisin, ou une photo de coucher de soleil nuitamment postée sur le groupe vacances. Et après Thomas D'Orazio, eh bien figurez-vous, Philippe, que beaucoup plus près de nous, l'humoriste Gad Elmaleh vient, lui aussi, de faire de ce problème de communication appliqué l'objet de l'un de ses nouveaux sketchs.
Aujourd'hui, pour la moindre petite occasion, le moindre petit dîner entre potes, on monte un gros WhatsApp comme si on allait gérer un truc de fou.
Il a dit, lui aussi, son désarroi face à la multiplication des groupes.
Je peux plus, je sors des groupes, j'en ai marre, je veux plus être dans des groupes.
Et mis le doigt sur un groupe très particulier dont je ne soupçonnais pas l'existence.
Il y en a un, je peux plus les amis. Le groupe WhatsApp le plus insupportable pour moi, c'est celui des parents d'élèves.
Le groupe parents d'élèves qui manifestement peut réserver quelques surprises à la poésie tout à fait contestable.
L'autre jour à 23h15, carrément, groupe WhatsApp du CE2. Bing, maman Bérénice écrit. Alerte poésie.
Alors voilà Philippe, le mouvement est en marche comme Thomas D'Orazio et Gad Elmaleh. Des hordes de misanthropes numériques quittent leur groupe WhatsApp et battent en retraite. Nous vivons une époque tonitruante.
Merci beaucoup Bruno Donnet. Et justement, Gad Elmaleh était venu nous parler ici de son désamour des groupes WhatsApp. Il n'en pouvait vraiment plus. Bien, bien vu. Bonjour Charlie.
Mais bonjour Philippe.
Ça fait tout bizarre de le dire comme ça. Oui. Bonjour Charlie et Lulu.
Ah. Bonjour.
Ah voilà, ah, zut, il est là, Lulu, avec nous.
Bonjour.
Ah, dommage.
Duo mythique de présentateurs télé qu'on avait découvert chez Christophe de Chavannes. C'était l'époque Coucou, c'est nous. Et même dans les programmes jeunesse de Maureen D'Or.
Oui, c'est
sur
ça.
Sur France 2.
Exactement.
Chalut Maureen, ça s'appelait, si je me souviens bien. Vous êtes entré dans les.
Une horreur, c'était une horreur.
C'est vrai.
Ah, c'était insupportable.
Non, mais vous le connaissez.
On passera pas d'extrait.
Non, non, mais c'était vrai, Charlie. On peut... Maintenant, c'est bon, on n'en a plus rien à foutre. C'était de la merde. Voilà. Question suivante, Philippe.
Attendez, j'étais qu'à la présentation, il n'y avait encore pas de questions.
C'est ça, merde.
C'est ça. Il est très en forme. Hein.
Comment ? J'entends ça et c'est ce qu'on aime. Vous êtes entré dans les mémoires adolescentes qui sont maintenant adultes avec l'émission Hit Machine que vous avez présentée le samedi matin. Plusieurs générations ont été touchées. L'émission s'est étalée. Alors, les dates diffèrent une quinzaine d'années, on va dire,
oui,
d'octobre 94 à mai 2009. Mmh. Et l'émission revient. Il y avait une tentative fructueuse, c'était en juin dernier, génération Hit Machine. Voici le volume 2 ce soir à 21h, c'est plus le samedi matin. Qu'est-ce qu'on va voir ? Un best-of, une émission neuve ou les deux ?
Non, on va voir une émission nostalgique, certes, avec plein d'artistes qui vont de l'époque. Mmh. Enfin, de l'époque, attention, il y a des artistes comme Jennifer, etc., qui vont bien. Hein. Mmh. Donc, ces artistes qui jouent le jeu, c'est-à-dire qui reviennent, qui rentrent un peu dans l'espèce de nostalgie, qui vont rechanter les tubes de l'époque. Ouais. Donc, Jennifer avec Au Soleil, Chimène Badi avec Entre Nous. Et voilà, donc il y a une espèce de petite bulle comme ça qui se crée, un peu nostalgique, mais très sympathique.
Votre arrivée sur scène est très mise en scène, c'est le cas de le dire. Vous vous présentez en musique devant un public surexcité.
Je m'appelle Charles et je m'appelle Lulu. On est avec vous pour le Hit Machine. Aujourd'hui en compagnie d'un publicant. Aujourd'hui en compagnie d'un publicant.
En compagnie de quoi ?
Aujourd'hui en compagnie d'un public en folie.
D'accord.
Voilà. Il y a quelques variations. Ça peut être en folie, ça peut être en délire. Un public en délire, ça dépend.
Alors, notre vous humeur. Avez reçu, c'était vraiment, quand je dis émission culte, c'est pas galvaudé. Vous avez reçu Rihanna, Mariah Carey, Jennifer Lopez ou encore Prince. C'est impossible, il serait impossible d'avoir des calibres pareils.
Et Michel Sardou.
Et Michel Sardou.
Et Johnny Hallyday.
Alors, je veux dire, Sardou, Hallyday, on peut encore les avoir. Mais Rihanna, Carey, Jennifer Lopez ou Prince.
Non, on ne peut plus les avoir.
L'émission, pourquoi on pouvait les avoir ? Ça tient en deux mots. Réseaux sociaux, qu'est-ce qui a changé ?
Ce qui a changé, c'est le rapport avec la musique, tout simplement. C'est-à-dire qu'avant, on attendait son clip vidéo, notamment sur M6. La télévision avait une vraie importance au niveau des variétés.
Ouais.
Aujourd'hui, quelqu'un qui a envie d'écouter un titre, il le fait immédiatement, il l'a tout de suite. Celui qui veut voir un clip, il va sur YouTube, etc. Donc, c'est le rapport avec la musique qui a complètement changé, Internet et tout le reste, bien sûr.
Céline Dion est venue plusieurs fois.
Je me permets, Philippe,
bien sûr, de
saluer
Lulu.
L'analyse parfaite de Charlie, pour une fois.
Tu peux.
En trois mots, il a synthétisé tout ce qui nous est arrivé.
Voilà. Rihanna, Jamiroquai, Elton John, Janet Jackson, Lenny Kravitz, Depeche Mode, Pink, James Blunt, Mariah Carey. Contrairement au top 50, vous ne faisiez pas que passer des clips, on les voyait chanter, jouer.
Mais si je peux me permettre. C'est aussi parce qu'il y a eu ces émissions-là, qu'il y a eu le top 50, qu'il y a eu, même jusqu'à Platine 45, que le Hit Machine a pu exister aussi.
Bien
c'est-à-dire
sûr.
Que, voilà, s'il n'y avait pas eu le top 50 qui était le classement des ventes, peut-être que M6 ne se serait pas inspiré. On a mis la petite cerise sur le gâteau.
Dans l'émission de ce soir, on voit Robbie Williams avec tout son groupe. On dirait que les guitares ne sont pas branchées, qu'il n'y a pas de micro au-dessus de la batterie. C'était en playback.
Alors,
qu'est-ce qui était en playback, qu'est-ce qui était en live?
Ça dépendait. C'est-à-dire qu'au début, effectivement, il faut se souvenir, l'émission, c'est une petite émission sur une petite chaîne. Donc, on commence cette émission avec ce qu'on appelle des artistes en développement. Sauf qu'il se trouve que cette année-là, en développement, il y a des artistes comme Zazie, comme Obispo, comme Axel Red. Voilà. Et après, bah, comme l'émission fonctionne, on laisse le choix aux artistes et aux maisons de disques. Si l'artiste veut faire un live complet, il faut que ça se justifie, évidemment. Prince vient faire un live. Björk fait un live total. Donc, on les laisse faire. Mais vous n'oubliez pas que les artistes anglo-saxons, quand ils viennent en France ou quand ils viennent en Europe, ils ont un peu la trouille de chanter en direct parce que...
C'est surtout que ça coûte cher, le live. Pour avoir fait des lives à nulle part ailleurs, c'était ça la vraie difficulté.
Si vous avez, si
c'est
vous
qu'il
avez...
fallait payer les musiciens, les techniciens, les répétitions.
Si vous avez Björk ou Prince, c'est pas un problème. Évidemment.
Philippe,
j'habitais dans le Vaucluse. C'est des trucs qu'on remarque, nous, parce qu'on est habitué à voir si les gens chantent en direct ou pas. Mais les gens qui nous regardaient s'en foutaient un peu, en fait.
Votre organisation, c'était celle-ci. C'est comme ici, dans ce direct. Charlie, c'est vous qui tenez le lead. Et Lulu rajoute des petites blagues là-dessus, c'est ça?
Oui, vous savez.
Tout est écrit. Hein, tout est écrit.
C'est pas vrai.
Non. Il paraît que rien n'était écrit.
Non.
Rien.
En vrai, blague à part.
Charlie ne sait pas lire. Hein.
En fait, c'est vraiment l'histoire de deux potes.
Ouais.
Nous, on est assistants de prod, et je crois que dans notre tête, on est encore assistants de prod. Donc, c'est exactement les mêmes conneries qu'on veut faire dans la boîte.
C'est les 12 outsiders à qui on confie les clés de l'émission.
Voilà, c'est ça. Quand on allait tourner sur les plateaux de Chavannes, on prenait la R5 de ma maman et on déconnait tous les deux dans la voiture. Sauf qu'après, la voiture
mais
est venue.
Mais ça, c'est au début. Tout le monde vous raconte ça.
L'esprit.
Didi Top, ils ont démarré avec des bagnoles pourries. Puis après, c'est devenu.
Non, mais ce que je veux dire, c'est l'esprit.
C'est vrai qu'elle était pourrie, la voiture de ta mère.
Ouais. C'est-à-dire que l'esprit qu'on avait
dans l'R5 de ma maman,
ouais,
c'est le même aujourd'hui. Et c'était le même quand on faisait l'émission. C'est très potache, ça vole pas haut, etc. Mais c'est pas grave, c'est nous. Donc on s'en fout.
Mais vraiment, rien n'était préparé. Il n'y avait pas de texte, il n'y avait pas de prompteur.
Non, mais c'est impossible pour moi.
Si, il y avait quand même des dates et des titres de chansons. Mais après c'est compliqué. Comme vous le dites, Charlie est leader. Donc si il est en train de lire un truc, moi je ne peux pas faire de vanne parce que je vais tout foutre en l'air. Donc on a vite arrêté tout ça, nous.
On n'a jamais commencé, d'ailleurs. Ouais. Pour avoir une idée de l'ambiance de l'époque, qu'on va voir ce soir aussi, parce que c'est un mélange de nouveautés et de documents d'époque.
Tout à fait.
On va entendre une sorte de medley musical que vous avez fait vous-même, ces trois titres enchaînés comme ça.
Ils ont mis à la mode un accessoire indispensable.
Très utile l'hiver.
Exactement.
Et qui pique
Fatal Bazooka.
Et alors, il y a un trucage, j'en ai entendu, je vais citer Michael Youn et Fatal Bazooka,
Alizé
et les Bébés Brunes. Vous chantiez en même temps, Alizé, vous l'avez encore en tête?
Oui, mais je crois que tout le monde l'a en tête. Pour le coup, on peut vraiment dire que ce sont des tubes.
Moi, j'avoue que je ne connaissais pas les paroles.
Vous connaissiez un petit peu la chanteuse quand même.
Je connaissais la chanteuse et je connais aussi la reprise de Julien Doré.
Certes.
Moi, Lolita.
Moins sexy.
Alors, ce qui est assez intéressant, c'est vous faites quelque chose qu'on fait rarement en télévision.
Oui.
Vous mélangez les images de maintenant.
Oui.
Il y a des chanteurs, des chanteuses qui sont revenus chanter le tube de l'époque,
oui,
avec les images de l'époque.
Bah oui, mais c'est ça qui est amusant, parce que justement, nous, on a du stock. C'est-à-dire que beaucoup.
C'est amusant, mais pas pour eux. Parce qu'on se rend compte, quand on suit les artistes, il y a pas mal de chirurgie esthétique.
Il y en a
qui se ressemblent plus du tout. Je vais citer personne, mais il y en a qui se ressemblent plus du tout.
Charlie a essayé, mais ça n'a pas marché.
C'est ce que j'ai dit, regardez-nous, nous sommes les mêmes. Non, mais c'est assez amusant. Je ne crois pas qu'il y ait comme ça de grosses différences. En tout cas, on ne l'a pas fait pour ça.
C'est une émission générationnelle, ça s'appelle plus Hit Machine d'ailleurs, ça s'appelle Génération Hit Machine. Quand on tape vos noms sur Google, quand on tape Charlie et Lulu sur Google...
Ah bah ça ne va pas être triste.
Non, c'est ça. Il y a une question qui sort.
Oui.
Que sont-ils devenus? Que font-ils maintenant? Je vous pose la question, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que vous faites maintenant, Charlie?
Moi, écoutez, je suis toujours dans cet univers-là parce que c'est ce qui me plaît. Donc la production, donc quelquefois, certaines sociétés ont la gentillesse de me demander mon avis, donc je leur donne. Et puis accessoirement, je donne des cours à de jeunes journalistes. Et bah dis donc, pourquoi ils se marrent ?
Parce qu'ils viennent nous l'expliquer qu'ils n'avaient rien préparé, que tout était à l'arrache, et maintenant vous donnez des cours. C'est oui. tellement génial.
Et je vais vous dire
c'est
un truc.
Et je vous dis Non, parce que je dois enchaîner.
Oui, mais moi j'en ai croisé trois, là, des journalistes qui sont ici à Europe 1.
Jean-Marc Lubin,
moi je fais de la prod télé, et je suis costumière de Poutine.
Votre maman a changé de voiture ?
Oui, depuis j'en ai acheté une plus grande.
Super, merci beaucoup Charlie et Lulu. Je rappelle, Génération Hit Machine, c'était
merci
un
beaucoup.
Bonheur, volume 2. C'est ce soir à 21h sur W9. Culture Média continue sur Europe après les infos de 10h. Nous invités les comédiens et comédiennes, c'est Philippe Lelièvre et Alison Paradis. Ils reprennent une pièce de théâtre, Le Manteau de Janis. Ça fait référence à Janis Joplin, vous verrez comment. Et puis dans Les Indispensables, Olivier Menkemoun, Astérix Obélix, très très attendu, ça vaut quoi ? Il va nous dire. Et puis Sébastien Bordona va nous faire un point BD avec le Festival d'Angoulême qui s'est terminé dimanche. Jean-Luc Lemoine arrive également pour sa session de rattrapage. A tout de suite.